Radio Kapi.
Le journal présenté par Grace Hamzati Massandi.
À Ituri, 15 civils tués par les ADF sur les tronçons Komandaluna dans le sud du territoire d'Irumu. Les défenseurs des droits de l'homme haussent les tons et en appellent à la responsabilité des autorités. Les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires et les uniformes au marché de leur choix. Décision prise par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire pour une rentrée scolaire apaisée. Le directeur de la province éducationnelle, Maniema 1, est l'invité de ce journal. Mokito Gaunda Serafin nous parle du bilan des activités scolaires de l'année passée dans sa juridiction. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri, où 15 corps sans vie des civils ont été retrouvés dans la forêt vers les villages de Samboko, Makutano et Mutwei Aodi, dans le sud du territoire d'Irumu. Selon les activistes locaux des droits de l'homme, les ADF sont responsables de la mort de ces personnes tuées samedi dernier dans ces entités sur les tronçons Komandaluna sur la route nationale numéro 4. Ils demandent aux autorités de dépêcher une équipe de secouristes sur les lieux pour l'inhumation des victimes. Christophe Mouniaderou de l'ONG CRDH indique que 5 autres civils ont été pris en otage par ces assaillants. Il plaide pour l'intervention urgente des FARDC pour stopper les exactions des ADF dans cette zone où de nombreux déplacés regagnent déjà leur village d'origine à la suite de l'accalmie observée depuis plus d'un mois. Christophe Mouniaderou est joint par Martial Kizabiamungu.
Depuis le samedi 29 juillet 2023, les ADF ont massacré 15 civils à Samboko Makutaniyo et Mutui Aodi, et à l'heure où je vous parle, les corps de nos frères ne sont pas récupérés pour être enterrés dignement. Et nous nous posons des questions de savoir si, du moins, les autorités congolaises sont-elles conscientes qu'elles sont responsables de toutes les morts des populations civiles, car elles n'assument pas les responsabilités de la sécurisation des populations civiles. Et pourquoi elles ne veulent pas lasser les opérations militaires dignes pour stopper cette hémorragie de la sécurité? Et nous demandons aux militaires FARDC d'accompagner les jeunes volontaires juste pour aller enterrer les corps des membres de nos familles.
Pendant ce temps, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, condamne fermement les attaques contre les civils à Murangara, dans le Nord Kivu, attaques qui ont fait 11 morts et 4 blessés. Elle appelle les groupes armés à cesser immédiatement les hostilités, à déposer les armes sans condition et à adhérer au programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. C'est ce qu'indique son communiqué partagé sur le compte Twitter de la MONUSCO ce lundi 7 août. D'autres détails avec vous, Alain Irunga.
Ce même lundi, le calme est revenu dans les villages Marangara et Runzenze dans le groupement de Tongo, chefferie de Bwito, au lendemain de l'attaque du dimanche 6 août. Des rebelles du M23 ont attaqué des positions des groupes armés locaux, notamment l'Inyatura CMC. Le village Marangara est situé entre deux positions des M23, notamment celle de Mulimbi et de Bwiza, alors que les groupes armés locaux Inyatura CMC et NDC Rénové avaient le contrôle de Marangara. D'après les sources contactées par Radio Kapi dans le territoire de Rutshuru, les 11 victimes civiles tuées au cours de cette attaque ont été inhumées dans la soirée de dimanche. Les blessés sont toujours pris en charge à l'hôpital de Rutshuru et à l'hôpital de Bambo. Les mêmes sources précisent qu'aucune force régionale n'est présente au village Marangara. Ce village constitue un passage pour les M23 pour se rendre vers Bunagana et vers Bwiza, leur important bastion. Les Kenyans et les Sud-Soudanais sont positionnés à Rutshuru, distant de 2 km de Marangara, village attaqué dimanche dernier par les M23.
Je l'ai dit au sommaire, rentrée scolaire 2023-2024, les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Cette décision fait partie d'une série de mesures que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a communiqué vendredi dernier à tous les directeurs provinciaux de l'EPST à travers le pays. Dans cette correspondance, le professeur Tony Mwaba précise que ces dispositions sont d'application stricte et immédiate pour une rentrée scolaire apaisée tant pour les établissements publics que privés. De leur côté, certains parents contactés souhaitent vivement que ces mesures soient respectées cette fois-ci par les chefs d'établissement. Florida Kahambu revient sur d'autres mesures prises par le ministre de l'EPST.
Dans sa correspondance, le ministre de l'EPST souligne que les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. Les inscriptions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par les calendriers scolaires 2023-2024. Aucun test d'admission ne doit être organisé pour les nouveaux élèves et aucun frais de réinscription ne doit être exigé aux anciens élèves. Et le professeur Tony Mwaba de poursuivre qu'aucun élève ne peut être exclu pour raison de son appartenance ethnique, raciale, religieuse ou pour raison des frais scolaires, mais aussi qu'aucun acompte des frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Pour terminer, le ministre de l'EPST attire l'attention de ses destinataires sur le fait que certaines dispositions énumérées, quoique prises antérieurement, souffrent de non-application. Il les instruit de prendre des sanctions sévères à l'endroit des récalcitrants.
Merci Florida Kambo pour toutes ces précisions. Sud Kivu, la situation de l'éducation dans les zones d'urgence reste très déplorable dans la province. C'est plus précisément dans les territoires de Kalehe, Fizi, Mwenga et Uvira. Il s'agit des enfants privés de l'éducation pour des motifs de conflits armés. Aussi des infrastructures scolaires attaquées et fermées par les groupes armés. C'est ce qui ressort du rapport présenté par l'UNICEF Bukavu au cours de la revue annuelle de l'enseignement hier lundi à Bukavu. Emmanuel Elameji Wakabidi, reportage.
Dans la province du Sud Kivu et en matière de l'éducation d'urgence, au total 181 157 enfants déplacés et retournés n'ont pas accès aux établissements scolaires dans leur milieu, cela de janvier à juillet 2023. Des écoles sont fermées chaque semaine, des écoles sont attaquées par les groupes armés chaque mois. En moyenne, 5 enfants, dont 2 filles, meurent chaque jour.
920 filles et garçons de 3 à 17 ans sont privés de l'éducation chaque jour au Sud Kivu. Et ceci, c'est le calcul du 1er janvier au 30 juillet. Que 5 enfants, dont 2 filles, en moyenne, scolarisés, meurent chaque jour dans la zone d'urgence au Sud Kivu. Ce qui fait que juste de janvier à juillet, on a enregistré plus de 1012 enfants qui sont décédés, qui étaient scolarisés, mais dans les zones d'urgence.
Toutefois, les efforts sont menés pour apporter réponse à cette situation.
De janvier à juillet, nous avons répondu qu'il y a 40 258 enfants pour les ramener encore à l'école, sur les 181 000. La même chose, il y a que de toutes ces écoles à fermer, attaquer, occuper, on a fait que construire 21 salles de classe et 30 espaces d'apprentissage temporaires qui ont été mis en place comme des tentes pour que les enfants reprennent vite vite les cours.
Emmanuel Elamejo-Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Par ailleurs, dans la province de Lomami, bonne nouvelle pour les élèves des écoles primaires de la province éducationnelle Lomami 2. Près de 400 000 élèves des écoles primaires de cette province éducationnelle bénéficient désormais de leur bulletin scolaire grâce à un bienfaiteur qui a payé les frais de transport aérien. 200 cartons de bulletins scolaires expédiés depuis Kinshasa ont été bloqués dans une agence aérienne pour non-paiement des frais scolaires. Ils ont été récupérés depuis la semaine dernière et remis aux autorités scolaires de la province éducationnelle Lomami 2. Quelques responsables des établissements scolaires saluent ces gestes. C'est ce que nous dit Esther Ndalafina.
Les élèves concernés par ce geste de générosité d'un fils du terroir sont ceux des écoles primaires du territoire de Nganajika, de Kamiji, de Lulu ainsi que de la ville ferroviaire de Mweneditu. D'après Muller Mulenda, directeur de la province éducationnelle Lomami 2, ces bulletins scolaires ont été bloqués dans une agence en Mbujimayi depuis leur arrivée par manque de frais de transport aérien.
Kikibondo m'a appelé chez lui, il m'a présenté du bulletin déjà retiré à l'agence. Il a débroussé cette somme-là de 8 700 $ pour retirer et les bulletins qui étaient bloqués et payer même la dette des bulletins de la gratuité.
Cette action enchante les chefs des établissements scolaires car il a été interdit par la haute hiérarchie de l'EPST de remettre debout des papiers des résultats de fin de l'année aux élèves du primaire. Grégoire Katamba, directeur de l'EP Tounanukilaï de Bakwamulumba dans le territoire de Nganajika.
Nous sommes totalement ravis de cet acte de générosité combien louable. Alors on sait par quel terme on peut exprimer notre joie.
Signalons qu'il y a 2 ans que les bulletins étaient vendus aux élèves à 1000 francs congolais. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Direction le Congo central, où la gestion du bac moteur de Luozi doit être remise à la province pour un suivi permanent. Ceci est l'une des recommandations de la société civile du territoire de Luozi, formulée à l'endroit des différentes personnalités et structures dont les gouverneurs des provinces. Cette structure citoyenne a déposé un mémorandum le week-end auprès de l'administrateur du territoire de Luozi. Selon le président de la société civile, ce mémorandum est conçu dans le cadre de la recherche des solutions durables aux pannes récurrentes du bac moteur de Luozi qui est est en arrêt depuis le 23 juillet dernier. Le point avec Nana Plurish Mambo.
Ces recommandations sont contenues dans un mémorandum formulé envers les gouverneurs des provinces, les députés nationaux et provinciaux de l'Ouosi, l'administrateur de ces territoires et au personnel officiel du bac moteur. Au gouverneur de province, la société civile lui recommande de veiller à l'utilisation des fonds générés par les BAC, tout en remettant sa gestion à la province qui est plus proche de l'Ouosi au lieu de la capitale. Enfin, de réinstaller la brigade de l'office des routes à l'Ouosi pour éviter les différents frais d'émission pour les petites pannes réparables sur place à l'Ouosi. Aux élus du territoire de l'Ouosi, il leur est recommandé de démontrer qu'ils se soucient réellement des problèmes de la population pour lesquels il faut trouver des solutions idoines. L'administrateur du territoire, quant à lui, doit veiller à la qualité des matériels destinés à la réparation du BAC et en tenir informé sa hiérarchie. Enfin, cette structure citoyenne appelle les agents qui gèrent les BAC à canaliser les fonds qu'ils génèrent à la CADECO. La société civile de l'Ouosi dit refuser catégoriquement des réparations sur réparation de cet engin flottant. Elle demande plutôt au gouvernement l'achat d'un nouveau BAC d'une capacité de 60 tonnes. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la Commission électorale nationale indépendante a tenu hier lundi une journée d'information avec les journalistes sur les contentieux des listes de candidatures aux prochaines élections. Objectif, selon la CENI, sensibiliser la presse sur le cadre légal en matière de candidature à la députation nationale et provinciale en RDC. Aussi, permettre à ces derniers d'avoir la matière nécessaire pour bien informer la population. Un reportage signé Chris Bandundu.
Eddie Kisele et Ale Banza, experts de la CENI sur des questions juridiques, expliquent certains cas de recevabilité et de non-recevabilité des candidatures, ainsi que l'exemption de la caution sur l'alignement des 50% des femmes.
L'article 22 de la loi électorale dit sont également irrécevables les listes du parti ou du regroupement politique qui n'auront pas atteint 60% des sièges en compétition. Eh bien, ça, c'est une innovation parmi les innovations majeures.
Mais en même temps, il ne sanctionne, mais il institue des mesures incitatives en disant, lorsque vous présentez 50% de femmes, je vous exempte du paiement.
Bienvenue Ilanga Lembo, premier vice-président de la CENI, revient sur l'importance de cette activité.
Pour solliciter l'accompagnement des journalistes de l'ONCET dans le souci de la CENI de sensibiliser le plus possible, d'informer le plus possible sur les cadres légaux en matière de candidature.
La CENI estime que cette collaboration avec les organes de la presse leur éviterait notamment les accusations gratuites en matière de contentieux électoraux.
Et puis, dans les territoires de Lubero Nord Kivu, 21 prévenus sont condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de servitude pénale pour des infractions de viol et violences sexuelles et basées sur le genre. C'était au cours d'une série d'audiences foraines organisées pendant 10 jours par les tribunaux militaires des garnisons de Butembo dans le cadre du projet de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Ce projet est exécuté par l'ONG Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral, SOFEPADI. Selon Maître Nicole H. Assoumani, responsable du département juridique de la SOFEPADI, ces condamnations sont un signal clair envoyé aux auteurs des violences sexuelles. Elle est jointe au téléphone par André Kitenge.
Nous pensons que nous n'allons pas baisser les bras, nous devons aller jusqu'au bout parce que notre objectif c'est de lutter contre l'impunité des actes liés aux violences sexuelles. Alors, par rapport au message, nous avons organisé cette activité parce qu'elle revêt un caractère pédagogique. Nous avons voulu assez que cette activité puisse constituer un message très fort aux membres de la communauté pour qu'ils comprennent que nous devons nous retrouver dans un monde sans violence où les droits de tous doivent être respectés de manière égale. Voilà pourquoi ces messages ou toutes ces condamnations qui ont été faites à la portée de tout le monde doivent constituer un message fort à ces criminels qui sont en cours de chemin pour qu'ils comprennent que si jamais ils se livraient à ce genre d'actes, ils seront aussi soumis au même exercice qu'ont subi les autres.
Notez que 5 prévenus ont été acquittés lors de ces audiences foraines, faute de preuves. En plus bref, début hier lundi à la Cour de cassation du procès de l'opposant et député national Jean-Marc Kabound, ancien président intérimaire de l'UDPS, 12 griefs lui sont reprochés notamment des propos diffamatoires tenus le 18 juillet 2022 à l'encontre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Selon ses avocats et son parti politique Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabound est otage du pouvoir. La prochaine audience, prévue lundi 14 août 2023, sera consacrée aux plaidoiries.
Actualité internationale.
La vice-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland déclare ce lundi 7 août avoir rencontré à Niamey les auteurs du coup d'État au Niger pour des discussions difficiles qui n'ont pas permis des solutions négociées. Ces discussions ont été extrêmement franches et par moments assez difficiles, déclare à la presse Madame Nuland. La responsable américaine affirme aussi que les militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey sont conscients des risques d'une alliance avec la Russie. Mais Victoria Nuland indique que les représentants de la junte nigérienne n'ont pas pris en considération les suggestions de Washington destinées à rétablir l'ordre démocratique dans le pays d'Afrique de l'Ouest.
L'invité.
Il s'agit du directeur de la province éducationnelle Maniema 1, Mokito Gaounda Serafin, fait le point par rapport aux activités scolaires de l'année 2022-2023, évaluées à 87% de réussite dans cette province éducationnelle. Cependant, il y a encore beaucoup de défis à relever, dit-il. Mokito Gaounda Serafin s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Monsieur le proviseur Mokito Gaounda Serafin, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Comment évaluez-vous les activités scolaires de l'année scolaire 2022-2023 dans votre province éducationnelle?
Oui, avant de commencer, je rends grâce d'abord à mon Dieu, qui est celui, le maître du temps et des circonstances, qui m'a permis de gérer la province éducationnelle de Maniema. Je ne peux pas dire que j'ai évalué. Nous avions évalué les activités de 2022-2023 lors de la revue annuelle de performance. En fait, pour nous, si on nous demandait de nos côtés, nous allons vous dire que on a évalué à 87% les activités de l'année passée.
Comment justifier les 13% d'échecs?
Les 13%, c'est ce que nous regrettons et nous déplorons chaque année ici à la province de Maniema, est dû au nombre réduit de filles à l'école. Les filles à Maniema, vraiment, je vous dis, madame, les parents n'envoient pas tellement de filles à l'école. Et nous sommes en train de tout faire. On va conscientiser les parents pour cette année pour qu'ils laissent les filles aller à l'école. C'est vraiment un regret pour nous. Il y a aussi les effets induits de la gratuité. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez que la gratuité a amené un afflux des enfants à l'école. À l'école primaire, quand nous passions dans une classe où un maître se retrouve avec 80-90 élèves, ça c'est un problème aussi. Donc nous demandons à l'État congolais de venir en aide dans la province de Maniema parce que tous les enfants qui restaient à la maison sont maintenant au niveau des écoles. Malheureusement, il y a un problème sérieux des infrastructures au niveau de nos écoles ici. Voilà un peu ce que je peux dire.
Qu'est-ce que vous avez pris comme précaution pour l'année scolaire prochaine?
Non, nous n'avons pas de moyens. Nous tendons nos mains chez les autorités. Nous avions évalué, nous avions proposé les pistes de solution. Maintenant, c'est l'État congolais qui doit venir en aide dans la province d'éducation de Maniema. Ce n'est pas à nous.
C'est par exemple quelle solution que vous avez proposée?
Construire les écoles, les salles de classe, parce que c'est un problème sérieux. Dans certaines écoles, quand vous allez, vous trouvez que les enfants sont pléthoriques dans les salles de classe. Si l'État peut vraiment nous aider à construire certaines salles de classe, on peut résoudre tant soit peu les problèmes dans des écoles ici à Maniema.
Monsieur le prophète, les recommandations sont presque les mêmes chaque année. N'y a-t-il pas une commission de suivi d'exécution des recommandations formulées?
Non, pour cette année, il y a des nouveautés dans notre revue annuelle de performance, nous avions créé la commission de suivi. Et cette commission est gérée par le PROVED, bien sûr, mais il y a le membre qui compose ces comités qui doivent descendre dans chaque école pour voir. Et puis, à chaque fin du mois, le PROVED devra réunir les membres du comité pour évaluer, pour savoir qu'est-ce qui s'est bien passé et quels sont les problèmes qui continuent à persister.
Vous n'avez pas des moyens, bien sûr, mais nous pensons que toutes les recommandations formulées ici seront présentées à la revue annuelle nationale que vous allez participer.
Non, nous, tous les 60 provèdes, au moment où je vous parle, quand nous avions commencé notre revue, nous avions eu les messages de Madame la secrétaire générale qui nous demandait de transmettre le rapport avant le jeudi. Donc, tous les provèdes, tout ce que nous faisons, les évaluations que nous venons de faire, les recommandations, nous allons verser au niveau du secrétariat qui est notre point focal, qui va examiner et transmettre au niveau du gouvernement.
Alors, qu'est-ce que vous dites aux parents qui préparent déjà la rentrée scolaire de leurs enfants pour l'année scolaire 2023-2024?
D'ailleurs, son excellence a signé un document. Merci bien, madame. L'excellence a signé le document pour interdire à toutes les écoles d'imposer la vente de fournitures au niveau de leurs écoles. Et moi, j'écris la lettre à l'intention de toutes les écoles de ma province pour interdire à tous les chefs d'établissement d'imposer la vente des uniformes, de fournitures ou la réinscription. Ça ne peut plus exister dans ma province éducationnelle. Les chefs d'établissement qui oseraient demander aux parents de payer les frais pour la réinscription pour les anciens élèves, je pense qu'il doit s'en prendre à lui-même parce que cette fois-ci, nous n'allons plus badiner.
Monsieur le prophète Mokito Gaounda, merci.
C'est à moi de vous remercier, madame.
Notre invité, le directeur de la province éducationnelle Maniema 1, répondait aux questions de Florence Kizalunga. Voilà, fidèles auditeurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, coordonné et supervisé par Alain Rungmouchins. Merci à Alain Goy qui a assuré la mise en onde et à vous tous qui nous avez suivis. Vous pouvez réécouter ces radio-journal sur www.radiocapi.net. Bonne suite de la matinale sur la fréquence de la paix avec Christelle Fritimangwa.